Bienvenue dans ce second volet consacré au développement parallèle avec le framework .NET. Alors, avant de commencer à développer en parallèle avec le Task Parallel Library, il est important de bien comprendre quelques mécanismes propres à Windows. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les processus et les threads. Alors, lorsque vous cliquez sur un programme, Windows se pose la question, mais quel type d'application c'est ? Est-ce que c'est une application OS2 ? Est-ce que c'est une application POSIX ? Est-ce que c'est une application DOS ? Est-ce que vous êtes en train d'exécuter une application Win32 sur un système d'exploitation 64 bits ? Si tel est le cas, Windows va charger le sous-système en conséquence. Dans ce dernier cas, si c'est une application 32 bits, il va charger ce qu'on appelle le Windows en Windows, le WO, pour exécuter le programme 32 bits sur le système d'exploitation 64 bits. Alors une fois que le sous-système est chargé, Windows va créer un processus Win32. En créant ce processus Win32, il crée à la fois des structures en mémoire qui contiennent des informations propres au processus, il va lui donner un numéro d'identification, il va lui donner un quota de mémoire, il va lui donner un jeton de sécurité et surtout il va le mapper à une adresse particulière pour l'isoler des autres processus et éviter ainsi que chaque processus vienne empiéter dans la mémoire les uns des autres. Il faut voir ce processus Win32 comme une coquille vide qui n'exécute rien du tout. Une fois qu'il est créé ce processus Win32, Windows crée le thread initial, thread étant la plus petite unité d'exécution de Windows. Ce thread initial a en charge de créer les objets graphiques, les contrôles qui seront affichés dans l'application. Et à partir de ce thread initial, on va pouvoir créer des threads de travail qui elles-mêmes peuvent créer d'autres threads de travail et ainsi de suite. Alors le thread, il est assujetti à ce qu'on appelle un ordonnanceur de thread. On dit que cet ordonnanceur est dit préemptif, donc piloté par priorité. On le verra un petit peu plus tard. On sait un thread peut avoir plusieurs types de priorités variables. Ça peut être une priorité basse, une priorité moyenne ou une priorité haute, en fonction du job qu'elle a à faire. Il va donner à chaque thread un quantum de temps. Et lorsque ce quantum de temps sera expiré, comme on le voit là sur la slide, il va donc arrêter la thread et basculer de contexte. Ça veut dire qu'il va sauvegarder en mémoire l'état du thread qui était en train de s'exécuter et basculer dans un autre contexte, c'est-à-dire donner la main à un autre thread. Cet autre thread s'exécute. De la même manière, son quantum de temps est expiré. Il va y avoir le même phénomène, un basculement de contexte. Le troisième thread, son quantum de temps est expiré. Windows va revenir au thread premier, au premier thread, et lui redonner la main, et donc va aller rechercher en mémoire son contexte pour lui refiler en tant que données en entrée, par exemple. Mais regardez son exécution. Jusqu'à présent, elle était sur le processeur 0. Le basculement de contexte peut se faire sur un processeur différent. Ici, il est passé au processeur numéro 1. Alors, en résumé, les processus et les threads, c'est quoi ? Sous Windows, c'est séquentiel par défaut, un processus. C'est isolé des autres processus. Et si on souhaite développer en mode concurrentiel, asynchrone ou parallèle, on va utiliser le thread qui est l'unité fondamentale de Windows et qui, elle, est assujettie à un ordonnanceur de thread dit préemptif, donc avec des priorités particulières. En règle générale, on utilise les priorités de 1 à 15, c'est-à-dire un temps variable, soit basse, soit moyenne, soit haute. Cet ordonnanceur de thread donne une quantité de temps à chaque thread. C'est environ deux intervalles d'horloge sur une application dite de bureau, donc sur un Windows plutôt bureau. Par contre, il va donner beaucoup plus de temps à un thread qui s'exécuterait sur un serveur. On parle d'environ 12 intervalles d'horloge sur un serveur. Et puis, quand le quantum de temps est expiré, il y a ce phénomène de basculement de contexte. Alors ça a une incidence très forte, ce basculement de contexte. Parce qu'une application multithread, s'il y a trop de threads, il y aura trop de basculements de contexte, et ceci peut avoir une incidence très forte, en fait, dans les performances de l'application. On dit que trop de threads tue le thread et tue les performances de l'application. Mais de la théorie, allons à la pratique et voyons maintenant comment on crée un thread avec Visual Studio et le framework.NET. Pour illustrer l'utilisation du thread de Windows, on va utiliser un artifice. C'est des petits aliens qui vont se déplacer à l'écran. Donc je vais avoir mes aliens, je vais créer un alien que je vais positionner au centre de l'écran. Ensuite, je vais lui donner donc une amplitude qui correspondra à son pas de déplacement et un délai entre chaque pas. Là, je vais créer une boucle sans fin pour que mon alien se déplace indéfiniment et je vais démarrer l'application. Lorsque j'appuie sur le bouton Go ici, on voit bien que mon alien se déplace. Par contre, comme j'ai une boucle sans fin, je viens saturer la boucle des messages de Windows, ce qui fait que je ne vais plus pouvoir déplacer ma fenêtre comme on le constate ici. Là, l'application ne répond plus parce que j'ai ma boucle sans fin derrière qui affiche mon petit alien à chaque pas et la fenêtre ne reçoit plus le message de la souris ou du déplacement de celle-ci. Donc pour pouvoir l'arrêter, bah, j'ai qu'une solution, c'est d'appuyer ici sur la croix et fermer le programme assez violemment. Pour éviter donc de saturer la boucle des messages de ma fenêtre et donc le thread initial, je vais utiliser la classe thread en lui passant en paramètre un délégué de type ThreadStart qui prend lui-même comme paramètre une action dans laquelle je vais lui indiquer ma boucle sans fin pour déplacer mon alien. Ensuite, je vais démarrer mon alien. Je vais pouvoir démarrer mon application. Démarrer mon alien, démarrer même plusieurs aliens, et cette fois-ci, je peux déplacer ma fenêtre sans venir saturer le thread initial. Je vais pouvoir démarrer comme ça indéfiniment plusieurs petits aliens. Je vais même pouvoir suspendre le déplacement de mon alien pour qu'on constate la chose suivante. On voit ici que je change de couleur. Hein. Chaque alien change de couleur. Mais ça, c'est tout simplement parce que son quantum de temps est expiré à un instant T. L'ordonnanceur de thread va donc le planifier sur un autre processeur et pas forcément sur le processeur de départ, là où il a été créé. Et on le voit bien ici, si je prends cet alien-là, il passe du processeur 0, 2, 4, 6, de façon un petit peu aléatoire en fonction en fait de l'ordonnanceur de thread qui va planifier le thread sur les processeurs disponibles. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir, un thread est créé et dans l'espace de nom en fait system.threading.thread. La création d'un thread se fait à l'aide de la classe thread. On va pouvoir démarrer un thread à l'aide de sa méthode start. on voit qu'on peut passer des paramètres à un thread. L'arrêt d'un thread se fait avec la méthode abort, ou plus précisément avec une méthode plus élégante, parce qu'on ne préconise pas la méthode abort. En effet, même si elle existe, cette méthode-là, on ne sait pas dans quel état est mon thread à un instant T. On imagine que c'est en train de faire un calcul important. Si je l'arrête avec la méthode abort, ça la stoppe immédiatement et mon calcul peut être dans un état complètement incohérent. Donc on verra par la suite comment on peut arrêter de façon élégante un thread, ou plus précisément, on va aller voir les nouvelles fonctionnalités de la task parallèle library qui nous fournit les objets pour arrêter élégamment un thread. Un thread, pour faire de la coordination, on va joindre le thread avec sa méthode joint. Et chaque thread a un espace mémoire privé pour travailler sur ses données privées et éviter de venir empiéter dans les données des petits copains et dans l'espace mémoire des petits copains. Alors il existe un autre mécanisme pour exécuter des threads, c'est le pool de threads. En effet, lorsque je programme en parallèle, j'ai un travail à effectuer et la programmation en parallèle me dit il va falloir diviser ce travail. Division qui demande une surcharge. Non seulement je peux avoir des basculements de contexte, mais la création de thread a une surcharge en mémoire. Ensuite, je peux aussi diviser chaque travaux créé en sous-parties, donc je vais augmenter la surcharge. Et ainsi de suite. Donc il est extrêmement important d'éviter de créer trop de threads, même si j'ai énormément de travaux à effectuer sur mon algorithme. Ben c'est là que rentre en ligne de compte le pool de threads. En effet, comment ça marche? Ici, on imagine, j'ai deux processeurs avec des threads de travail qui, pour l'instant, n'ont rien à faire. J'ai mon thread initial, donc mon application démarre, mon thread initial démarre et va aller poster un certain nombre d'éléments dans une file d'attente globale. Ces éléments sont empilés les uns à la suite des autres, et le pool de threads, voyant que j'ai des threads de travail qui ne font rien, va aller planifier un élément dans un thread et exécuter en fait ce thread. Ensuite, il va remonter les éléments dans la file d'attente globale, va s'apercevoir qu'il y a un thread qui ne fait plus rien, va aller donc planifier un élément. Chaque élément est capable de créer d'autres éléments. Ce que fait le pool de thread, c'est qu'il va aller les poster dans la file d'attente, toujours en bas de la pile, et ainsi de suite pour chaque élément créé. Une fois que le thread de travail a fini élément 1, il va aller piocher dans la file d'attente globale un élément 3 et exécuter dans le thread initial. Mais là, je n'ai pas créé d'autres threads puisque je n'ai pas besoin de le faire, puisqu'il avait déjà un thread qui était disponible, donc il réutilise ce thread-là pour exécuter l'élément 3. Ensuite, élément 4 et élément 5 montent d'un cran au niveau de la file d'attente globale. Élément 2 se finit. Au lieu de recréer un thread, il poste l'élément 4 dans le thread disponible. Et il remonte élément 5 dans la file d'attente globale. Et ainsi de suite, le thread initial peut de nouveau aussi créer d'autres éléments qui seront empilés. Et dès que j'ai un thread qui est disponible, il viendra réutiliser ce thread libre. Le pool de threads s'utilise de la manière suivante. On va tout simplement utiliser la classe ThreadPool qui possède entre autres une méthode statique qui s'appelle le QUserWorkItem. QUserWork item qui prend donc une lambda expression comme argument de type c'est un callback et je vais démarrer mon alien à l'intérieur du pool de thread. Pas besoin d'ailleurs de explicitement démarrer le thread parce qu'elle démarre automatiquement lorsqu'elle est mise dans le pool de thread. J'exécute mon application. Je démarre un alien, je peux comme ça en démarrer plusieurs. On voit bien que j'ai un basculement de contexte puisque je change en fait de processeur. Hein, mon petit alien avance toujours mais il change de processeur. Je peux redémarrer comme ça d'autres aliens. Et la fenêtre n'est toujours pas figée. Je peux même suspendre pour vérifier que j'ai bien ces basculements de contexte. Alors pour résumer ce qu'on vient de voir, le pool de thread se trouve dans l'espace de nom, donc system.threading. Pour mettre dans la file d'attente, pour planifier un thread, on va utiliser la méthode QUserWorkItem, qui est une méthode statique de la classe ThreadsPool. On peut aller jusqu'à 250 threads par processeur. Et le pool de threads est capable aussi de gérer des threads d'entrée-sortie. Mais comme je vous le disais, l'utilisation de ces mécanismes de base de Windows sont aujourd'hui déconseillés. Et donc, dans une troisième partie, on va aborder ce qu'on appelle la Task Parallel Library, nouvelle librairie disponible depuis le framework 4.0 et qui va permettre de simplifier le développement parallèle.